Radio Campus sur le 88.3 FM.
Bondy Blog Centre. www.bondybloccentre.fr.
Bondy Blog Café. Bondy Blog Centre. Bondy Blog Café.
Rejoins la rédaction
www.bondybloccentre.fr.
Bonjour Ralph Souchet, vous êtes président de l'association GAGL 45, GAGL pour Groupe Action Gay Lesbien. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'asso en quelques mots ?
Bonjour, donc le GAGL 45, le Groupe Action Gay et Lesbien du Loiret, parce qu'on est vraiment sur le Loiret, parce qu'il y a beaucoup d'associations et de centres LGBT en France. Nous, on est basé sur Orléans, donc avec un rayonnement sur le Loiret. Et on est centre LGBT+, d'Orléans, donc LGBT pour lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, et nous avons ajouté un plus à cette dénomination-là, parce qu'il y a des gens qui ne s'y retrouvent pas dans ces termes-là, comme les polyamoureux, entre autres. Maintenant, beaucoup de personnes s'identifient dans des sigles. Et nous, dans le plus, on voulait surtout mettre en avant les personnes qui ont des droits dans cette société, on parle des personnes hétérosexuelles, et qui se battent tous les jours à nos côtés pour avoir une société qui soit plus juste, une société plus égalitaire. Donc c'est pour ça qu'on a ajouté un plus et on les remercie beaucoup.
Mais alors, d'abord, quelles sont la plupart de vos actions avec cet asso en tout cas ?
Alors, l'association a été créée en 1990. On a 30 ans cette année.
Et vous êtes président depuis 90 ou...
Ah non, pas du tout.
Non,
non, je suis président depuis 2014.
D'accord.
L'association.
Okay.
Avant, j'étais au secrétariat.
De l'association. Oh, d'accord. Ok.
Donc oui, l'association a 30 ans cette année. Il y a 30 ans, l'association s'appelait le GAG. C'était une double connotation. Groupe Action Gay,
ouais.
C'est la signification du sigle, mais c'était un gag de créer une structure pour les droits des homosexuels, alors que il y avait encore la pénalisation de l'homosexualité, c'était considéré comme une maladie mentale. Donc voilà le contexte qui était très important de créer.
Attendez, en 90, c'était encore considéré comme une maladie mentale ?
L'homosexualité était considérée comme une maladie mentale. Elle a été enlevée, si je ne me trompe pas, c'était en 82, si je ne me trompe pas. Et en 90, c'est la France qui... c'était la France qui l'a enlevé des maladies mentales, si je ne me trompe pas.
C'est super tard.
Et en 90, c'est l'OMS qui l'enlève aussi du contexte.
D'accord, c'est super tard. Hein.
Ça a été fait très tard. De toute façon, malheureusement, on a vécu ça, c'était violent. Quoi. Donc, vous comprenez pourquoi l'histoire du gag à cette période-là de créer une structure pour des droits.
C'est clair.
À savoir que l'association voulait surtout interagir sur une évolution de la société. Alors, quand j'ai une évolution de la société, c'était avoir les mêmes droits que les personnes hétérosexuelles et surtout un travail sur la santé. Parce que malheureusement, c'était en pleine épidémie du VIH.
Oui.
Donc, il fait en sorte de pouvoir mettre les personnes, pouvoir laisser courir et gérer l'épidémie. Et la dernière partie, c'était la reconnaissance de la déportation homosexuelle pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ah oui, effectivement.
C'était un gros travail aussi, car à ce moment-là, la plupart des personnes n'acceptaient pas qu'il y avait une déportation homosexuelle pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il fallait tout un travail de reconnaissance pour être accepté. Mmh. Donc, ça n'a pas été des moindres. Ça a été vraiment un très, très gros travail.
Oui, ça a fait partie de vos missions, en tout cas, au sein de l'asso à l'époque, déjà.
C'était ça la base de l'association qui a été créée.
D'accord.
L'association a pris un grand virage en 2008. Nous avons pris un local au 28 bis rue Sainte-Anne. Nous avons embauché un salarié qui est le coordinateur du centre. Nous avons créé un projet d'évolution de l'association avec un projet de santé. Parce que nous avons l'agrément de l'Agence régionale de santé pour faire des TROD, des tests rapides d'orientation diagnostique sur le VIH, où au bout de quelques minutes, vous connaissez votre sérologie VIH il y a 2 mois.
D'accord.
Ce qui est un gros progrès. Un des axes de l'association est aussi la lutte et la prévention contre les discriminations. Nous faisons des interventions en milieu scolaire. Nous avons l'agrément du rectorat. Nous faisons aussi des forums. Nous travaillons avec les infirmières en milieu scolaire aussi sur le Loiret. Un axe qu'on a, entre autres, c'est la convivialité, qui est très important. Parce que malheureusement, dans notre structure, mais un peu dans toute la France, hein, parce que je parle d'Orléans, mais malheureusement c'est un peu partout pareil, il y a des personnes qui sont isolées dans un mal-être qui est terrible et qui ont pas ou peu d'amis, qui rencontrent pratiquement personne. Et ils ont besoin de ces moments de convivialité pour se rencontrer, pouvoir parler, de se rendre compte qu'il y a des gens qui sont dans la même situation qu'eux, dans les grandes difficultés, entre autres de sociabilisation. Et on est là pour permettre à ces gens de se sentir bien, à l'aise, pour éviter qu'ils continuent à être dans un mal-être et dans une perte d'estime de soi. Un autre axe qu'on a, donc je parlais tout à l'heure de la commémoration, la déportation homosexuelle pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est pour nous quelque chose de très important. De pouvoir parler du passé et de pouvoir expliquer aux gens d'où on vient et ce qui s'est passé. Et le dernier axe de l'association, c'est les demandeurs d'asile. Parce que si nous, en France, on a encore cette chance-là de pouvoir vivre libre, malheureusement, on a des droits. Malheureusement, dans d'autres pays, ils n'ont pas cette chance-là. C'est soit la prison. Alors, la prison, c'est pas les prisons de chez nous, hein, malheureusement. C'est de la violence. Ils sont frappés, mutilés, violés. Malheureusement, ils en sont arrivés à ce stade-là dans certains pays. Soit par violence gratuite, soit pour que les personnes dénoncent leurs collègues, leurs camarades LGBT, pour qu'ils puissent détruire les réseaux, ce qu'ils appellent eux les réseaux.
Des réseaux, carrément.
Et oui, ils appellent ça des réseaux. Pour eux, c'est un peu des réseaux, le monde LGBT dans ces pays-là. Et ils doivent mettre fin à ça. Et dans d'autres pays, malheureusement, c'est la peine de mort.
Oui.
Et donc, on peut prendre l'exemple de certains pays arabes où les personnes homosexuelles sont montées en haut d'une tour et on les lance dans le vide.
C'est voilà. Effroyable. C'est comme j'avais entendu parler récemment là, de la lapidation sur les femmes qui commettaient des adultères. C'est complètement fou, quoi.
C'est encore, malheureusement...
Et ça existe encore, quoi. Et c'est dur de le croire quand on habite en France. On se dit, mais comment on peut avoir une telle cruauté à l'égard d'humains, quoi. Enfin,
Malheureusement, c'est encore présent. Alors... Il y a des us et coutumes aussi dans certains pays, pour certaines femmes, surtout les lesbiennes, dans certains pays, la famille ou le marabout viole, ça s'appelle les viols correctifs. Malheureusement, ça existe encore maintenant, hein. C'est très violent quand on soit des demandeuses d'asile qui arrivent enfin à parler de ces choses-là qu'elles ont subies. ces viols correctifs à plusieurs reprises, malheureusement, au risque d'être enceinte. Et si elle venait à être enceinte, et ça a été le cas de certaines personnes, d'expliquer comment elles se sont fait avorter ou elles se sont avortées elles-mêmes.
Oui, parce que c'est interdit là-bas aussi, je suppose.
Parce que certaines femmes l'ont fait elles-mêmes à faire l'avortement avec un cintre.
Avec un cintre, oui.
Voilà. Prendre un cintre métallique et s'avorter elle-même. Voilà. Quand la personne vous explique ça, c'est très violent.
Ouais. Voilà. Et vous, alors, j'ai une question.
Voilà. Nous, en France, on a encore une chance.
Oui. C'est important de se le dire et aussi de dire que du coup, il y a des instances qui nous donnent le pouvoir, en tout cas, d'aider les autres dans d'autres pays. C'est ce que vous racontez là avec justement les demandeurs d'asile. Et moi, j'ai une question que je me pose, c'est d'où vient la plupart justement de ces personnes-là en détresse? Est-ce que vous avez des pays ou des provenances à nous donner en termes de chiffres un peu?
Alors, on va parler de continent, ça sera plus simple.
Ouais. Excusez-moi, j'ai pas bien entendu le...
L'Afrique.
L'Afrique, ouais.
Ça, on a beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique. Quelques personnes qui viennent d'Arabie Saoudite. Mmh. Donc oui, malheureusement, c'est des pays qui n'ont pas accepté... qui acceptent pas les droits, quoi, et qui sont encore figés sur des vieilles traditions, malheureusement.
Et alors, à l'inverse, les pays les plus ouverts sur ces questions-là, même encore plus ouverts que la France, ce seraient lesquels? Ou ce sont lesquels?
Alors, Malte.
D'accord.
Qui est le premier pays à avoir beaucoup avancé sur les droits LGBT. Les pays nordiques.
Et les pays nordiques, d'accord.
Les pays nordiques sont vraiment... un stade très avancé. C'est voilà. Après, ils sont avancés sur beaucoup de choses,
oui.
Mais il y a d'autres droits où ils sont un peu plus en retrait que nous, on a avancé. Voilà. Donc, on peut pas dire que c'est une moyenne. Hein, de toute façon,
oui, bien
on peut
sûr.
Pas non plus tout avoir. Mais en moyenne, voilà, il y a des pays qui ont un pacte complet. Et d'autres qui ont des droits, comme nous en France. Et ça s'appelle... il faut aller sur l'ILGA. ILGA, c'est un organisme international qui travaille sur la classification des droits LGBT dans le monde. Et c'est là qu'on voit un petit peu la classification de la France par rapport aux autres pays.
D'accord. ILGA.
ILGA, oui.
D'accord.
Ouais, on parlait tout à l'heure des droits. C'est vrai qu'en 82, dépénaliser l'homosexualité en France, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein.
Ouais, mais c'est clair. Là, en plus, on parle de dépénalisation. C'est quand même.
Dépénalisation.
C'est super fort.
Donc,
quand
vous dites dépénalisation en 82 en France, et l'association se crée en 90.
Ouais.
Donc, 8 ans après, quoi.
Ouais.
Donc, beaucoup de jeunes, quand on explique l'histoire, Thoreau n'arrive pas à comprendre qu'il a fallu tant de temps pour qu'on arrive quand même à avoir des droits. C'est vrai que nous, les anciens, on se rend compte de ça, hein, on voit l'évolution. Hein,
oui, oui, oui.
Plus de 30 ans. Mais c'est vrai que les jeunes maintenant ne se rendent pas compte de les personnes, ce qu'elles ont vécu avant. Quoi.
Est-ce que justement on peut dire que. On avance plus vite qu'on a avancé dans le passé. Ça, c'est une certitude?
Alors, non.
Non, non, justement,
non, je
voilà.
Je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas dire qu'on avance plus vite.
Ouais.
On avance.
Oui.
Ça, c'est clair. On a des droits qui sont arrivés depuis 30 ans. On a eu droit à avoir le mariage pour les couples de même sexe. On a eu le changement d'état civil pour les personnes transgenres. On a eu l'évolution au niveau de l'adoption pour les couples de femmes. Alors, c'est une avancée, mais c'est pas encore ce qu'il faut maintenant pour les couples de femmes, à savoir que la PMA normalement devrait être votée l'année prochaine avec une évolution des droits pour la deuxième mère et les droits de l'enfant. Donc on attend ça avec vraiment une impatience. Ce qui a avancé aussi sur nos droits, c'est les droits à la santé. Je vais prendre un exemple. Il y a quelques années, une personne qui décédait du VIH, le corps était mis directement dans un cercueil, le cercueil était fermé, et la famille, malheureusement, ne pouvait pas se recueillir sur le corps. Ça veut dire qu'il n'y avait pas un travail avec les thanatopracteurs sur le corps. Ça veut dire qu'il n'était pas nettoyé, pas fait comme tout corps qui, quand il décède, présente à la famille et voilà.
Attendez, parce qu'il avait le VIH ou parce qu'il était homosexuel?
Parce que la personne était atteinte du VIH.
D'accord.
Encore cette peur, malheureusement, il y a quelques années, même si on sait que le VIH est dans le sang et que si la personne meurt, le sang meurt parce qu'il n'y a plus d'air, donc il n'y a plus de risque de contamination.
Oui.
Mais malheureusement, même avec ça, la plupart des maisons funéraires ne faisaient pas les soins pour les personnes qui décédaient du VIH. Il a fallu que la ministre de la Santé, à ce moment-là, mette une loi pour permettre à toute personne de pouvoir mourir dans la dignité et que le corps soit nettoyé et présenté à la famille.
Ouais, encore une avancée qui
il y a une grosse avancée
spéciale. Ouais, d'accord.
Voilà. Dans les avancées, qu'est-ce qu'on a eu comme avancée? De pouvoir quand même être dans la rue, de pouvoir marcher,
oui,
quand même, de
se tenir
par la main, de pouvoir vivre quand même sa vie. Voilà, même si dans certaines villes c'est un peu plus compliqué que d'autres. Alors, moi j'ai parlé pour Orléans sur ce coup-là. Connaissant mes collègues de d'autres centres LGBT dans toute la France, nous, Orléans, on a une grande chance. Alors, quand je parle de grande chance, c'est qu'il n'y a pas tant d'agressions que ça à Orléans. On peut espérer en justice. On a déjà eu le cas de personnes qui se sont fait agresser de par leur homosexualité dans la rue. On a pu espérer en justice être auprès d'eux. On a de la chance d'avoir une police nationale avec qui on travaille et ça se passe super bien.
Oui, justement, on reviendra sur ce point-là, sur les formations que vous organisez avec les... avec la...
Alors, je finis avant de parler de la gendarmerie. Mais avec la police nationale, ça se passe super bien à Orléans. On travaille vraiment très bien avec le tribunal d'Orléans.
D'accord.
On a en plus des gens très compétents et avec qui ça se passe super bien. La dernière agression qu'il y a eu, la présidente du tribunal a bien fait reconnaître le fait et de l'agression homophobe qu'il y a pu y avoir et de faire en sorte que les personnes soient identifiées comme des victimes. Et ça, j'appuie bien sur le terme de victime parce que c'est très important pour la reconstruction de la personne, qu'elle comprenne qu'elle est victime de cette affaire-là et qu'elle n'y est pour rien. C'est très important pour la reconstruction. Donc, Orléans, on a cette chance-là où ça fonctionne super bien. Et oui, vous avez abordé un sujet, c'est les formations. Nous, il y a 5 ans, on a travaillé sur une campagne sur les violences conjugales dans les couples de même sexe, qui était très important pour nous parce que c'est comme pour dans tout couple. Hein. Il ne faut pas croire que nous, on est épargné par les violences, hein, c'est fou. Hein.
Oui.
Donc, tout couple a ce système de violence. Et avec une stagiaire, on a travaillé à faire 2 flyers, un flyer homme, un flyer femme. Ça nous permettait de décrire un petit peu toutes les violences qu'il pourrait y avoir. Voilà. Violences physiques, psychologiques, économiques et physiques. Et derrière, on a indiqué ce qu'il y avait à faire par rapport à ces 4 violences. Quand on est témoin, qui appeler? Et quand on est agressé, comment préparer un peu ces démarches, ça veut dire d'aller au commissariat ou la gendarmerie et de préparer son départ du lieu d'habitation où on est. Si les cas de violence physique, psychologique, économique et sexuelle sont les mêmes que pour les personnes hétérosexuelles, la différence qu'il y a entre le monde LGBT et le monde hétéro, c'est qu'il y a des chantages dans le psychologique. Alors, le chantage à la outing, parce que souvent, dans les couples LGBT, il y en a au moins un des deux qui n'a jamais fait son outing auprès de la famille, auprès des amis, auprès du travail, de peur d'être menacé, d'avoir des représailles, ou de perdre carrément son emploi ou sa famille. D'accord. Et malheureusement, celui qui a une mainmise sur l'autre va se servir de ça pour continuer à le dominer. En lui disant, tu veux partir, mais il n'y a pas de problème. Mais maintenant, tu vas subir.
C'est curieux quand même. On s'y attend pas. Il y a vraiment une récurrence là-dessus, en tout cas. Souvent, dans les couples, en tout cas homosexuels,
Ça arrive.
D'accord.
Le dominant, c'est comme dans tout couple, essaiera de trouver par tous les moyens un moyen de pression pour continuer à l'avoir sous sa coupole.
D'accord.
Et ceci, ça fait partie des points qu'il peut avoir à ce moment-là. Et le deuxième, on parlait de santé tout à l'heure, on a beau être en 2020, on a beau avoir des avancées sur le sida, malheureusement, dès que vous en parlez, les gens vous regardent de travers, vous regardent comme si vous étiez un pestiféré. Et rien qu'à énumérer le mot sida, les gens font deux pas en arrière. Donc, on parlait tout à l'heure de chantage. Il suffit que l'un des deux, et surtout le dominant, annonce ouvertement en disant « Ah, mais vous vous rendez compte, lui, il a le sida, ainsi de suite et tout. » Même si c'est faux, rien que de dire ça, les gens vont tout de suite se mettre en retrait. Et malheureusement, une personne au travail s'y risque encore, malheureusement, même si la loi le dit clairement comme quoi on ne doit pas être licencié pour cause de problèmes de santé. Mais les gens vont regarder la personne de travers et vont la mettre de côté. Donc voilà les deux chantages qu'il peut y avoir dans nos couples LGBT, malheureusement. Et c'est ce qui différencie un peu ce que vous expliquiez tout à l'heure, les violences hétéro et les violences homo.
D'accord.
Donc, on parlait de formation tout à l'heure.
Oui,
donc,
oui.
Alors, comment ça s'est passé? C'est que l'année dernière, nous avons été inclus dans la plateforme 3919 avec Marlène Schiappa, ce qui nous a permis en même temps de travailler sur les violences intrafamiliales. J'ai été reçu à Paris à la cohésion sociale pour pouvoir parler des violences intrafamiliales et des violences dans les couples de même sexe.
Oui.
Et de là, nous avons été à l'Assemblée nationale pour faire un point sur les violences conjugales dans les couples de même sexe et permettre de voir comment, en France, on peut travailler avec les plateformes, la plateforme 3919, d'autres structures et l'État pour mettre les choses en place pour pouvoir protéger les personnes. À partir de ça, il y a la gendarmerie nationale qui nous a contactés. Donc, on a déjà fait trois sessions au fort de Rosny-sous-Bois, avec une sensibilisation de 25 officiers et officières de la police judiciaire sur les violences conjugales dans les couples LGBT.
Ouais. Et quels sont les points abordés globalement dans ces formations avec la gendarmerie? Quels sont les points sensibles, en tout cas, qui reviennent de manière récurrente?
Alors, à chaque fois, ce sont des personnes qui sont présentes. Alors, il y a un référent de chaque département
oui.
de France qui est présent en ce moment-là. Des personnes qui sont motivées à faire changer un peu la vision de la gendarmerie. Ce sont des formateurs, les uns comme les autres, des personnes gradées et qui ont d'autres personnes sous leurs ordres et qui dans le commissariat. Et leur but est vraiment que toute personne soit reçue de la meilleure façon possible. Et comme on peut recevoir n'importe qui sur n'importe quel sujet, quoi. C'est parce que si la personne doit être homo ou LGBT, qu'elle doit être mal reçue ou pas reçue du tout. Et voilà, la gendarmerie a changé un petit peu sa vision des choses. Ça évolue parce que malheureusement, il y avait une image un peu négative de la gendarmerie. Et maintenant, c'est une autre image qui apparaît de la gendarmerie qui est faite là. Avec ce travail sur les violences conjugales dans les couples de même sexe, un meilleur accueil des personnes, comment gérer l'intrafamilial et ainsi de suite et tout, quoi. Donc franchement, oui, c'est très bien.
D'accord. Et est-ce qu'il vous arrive de sortir du département ou de la région?
Alors, oui.
Enfin là, oui, vous me disiez Paris, vous me disiez Paris, mais je veux dire pour des actions en tout cas.
En France, il n'y a pas beaucoup de structures LGBT.
Oui.
Alors, à savoir que les centres LGBT, c'est des structures qui ont un lieu d'accueil, d'écoute. Souvent, ils ont un salarié et qui ont plusieurs axes, comme nous on a. Et peuvent travailler avec la police, la gendarmerie, et c'était en justice, voilà. Donc ça, c'est très important. Il y en a pas dans tous les départements. Donc ça veut dire que ça nous arrive d'avoir des gens qui nous appellent. Les dernières personnes, c'était Île-de-France, Vesoul. Donc vous voyez comme quoi ça peut être aussi des gens qui viennent de loin. On a eu des personnes du Vaucluse aussi qui nous ont appelé là il y a 15 jours. Ça nous arrive aussi d'avoir des personnes des DOM-TOM.
Oui.
Pour avoir des renseignements. Donc après, là, quand c'est comme ça, on dirige sur des structures qui existent. Parce que le but, c'est pas de gérer tous les dossiers, mais c'est surtout de les rediriger sur des structures qui existent déjà dans leur département ou dans leur région.
D'accord.
Si il n'y a pas de structure dans leur département et leur région, voire dans la périphérie autour, et si vraiment il n'y a pas ou ils ne peuvent pas, ben on essaie de gérer le dossier.
D'accord. Et donc là, vous prévoyez d'en faire d'autres de ces formations, tout ça?
Alors, au niveau de la gendarmerie à Rosny-sous-Bois, au fort de Rosny-sous-Bois, il nous reste encore une formation à faire cette année pour clôturer notre cycle de formation. Après, ça sera à voir avec le capitaine de gendarmerie, voir si on refait un cycle de formation ou pas.
Et vous faites aussi, il me semble, j'ai entendu dire, pour les enseignants, pour les...
Oui. Alors, oui, il y a des formations qui sont faites auprès du personnel de l'éducation nationale aussi. Beaucoup sur les questions transgenres.
Oui.
Parce
plus
que
sur...
C'est une question qui se développe de plus en plus.
Oui.
Donc, ça veut dire le changement d'état civil pour les jeunes étudiants, collégiens, lycéens, avec le prénom usuel que la personne aura choisi, d'avoir des vestiaires pour ces personnes-là, autres que le vestiaire homme-femme qu'il peut y avoir dans l'enceinte de l'établissement, pour que la personne puisse faire du sport. Voilà, c'est beaucoup de choses comme ça qui sont mises en place.
D'accord.
Les dossiers administratifs avec le prénom choisi par l'élève, voilà. Donc, franchement, ça se passe super bien. On a eu des bons retours là-dessus. Des établissements qui nous demandent avant les rentrées scolaires pour voir comment gérer les dossiers pour être sûr que l'élève se sente à l'aise et ne se sente pas, comment dire, montré du doigt comme quelqu'un de pestiféré. Voilà, donc il y a quand même une bienveillance de certains collèges lycées sur ces questions-là. Et ça, c'est très important.
Et vous avez, est-ce qu'on peut dire que vos actions, en tout cas, elles sont favorisées par la mairie ou même par l'État ou par ces choses-là? Vous n'êtes pas, en tout cas, vous n'avez pas de frein à ce niveau-là?
Disons que le fait qu'on travaille depuis des années avec des structures nationaux, d'État, entre autres, parce qu'on travaille aussi avec la délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'anti-LGBT.
Oui.
Entre autres, à DILCRA, on travaille quand même avec l'éducation nationale, on travaille quand même avec l'Agence régionale de santé, donc on travaille vraiment avec des structures nationales. Le fait de voir tout le travail qui est mené depuis des années, d'avoir des retours, des structures avec lesquelles on travaille, c'est ce qui apporte aussi un plus. Et de voir l'importance que l'on y attache et de voir le résultat. Donc oui, on n'a pas de frein là-dessus, bien au contraire. Maintenant, il faudrait que tout le monde soit sur la même ligne, parce que d'un département à l'autre, on n'est pas du tout égaux sur ce travail-là, quoi.
D'accord. Et j'ai lu aussi que vous accueillez du coup des services civiques. Et donc, me demandais quelles sont leurs missions globalement.
Alors, les missions de service civique, c'est en plusieurs parties, donc les interventions au milieu scolaire, parce que toutes les interventions au milieu scolaire que l'on fait, c'est que des bénévoles qui le font. Je l'expliquais tout à l'heure, on a un salarié, c'est le coordinateur du centre.
Oui.
Sinon, on est toutes et tous des bénévoles. C'est important de le signaler. La personne qui est en service civique, donc, va faire une partie intervention au milieu scolaire, donc qui accompagnera la bénévole qui sera présente ce jour-là, parce qu'on fait toujours une intervention à deux, jamais une personne seule. Ça dure à peu près 2 heures, une intervention en milieu scolaire. Et une autre partie du travail, c'est de faire de l'accueil et de l'écoute à l'association, parce que notre salarié peut pas tout le temps être aux entretiens qu'il peut y avoir et répondre au téléphone ou accueillir les personnes qui arrivent à ce moment-là, quoi. Donc la personne peut faire plusieurs missions.
Et du coup, là, vous venez d'aborder un point aussi qui m'intéresse, c'est au niveau des appels, tout ça. Là, pendant le confinement, vous restez à l'écoute, en fait. Vous avez mis en pratique un service d'appel en visioconférence ou même un service de contact en tout cas par Messenger. J'ai vu, on peut vous envoyer un mail. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça rapidement?
Alors disons qu'au premier confinement, on avait un petit peu une peur, une crainte. C'était que se dire que les gens vont être confinés en 24-24 avec leur famille. On sait très bien que les jeunes homos, malheureusement, des fois, il y a la complication par rapport à l'outing. Et on s'est dit, ouf, les risques de violence peuvent être présents. Et donc, on a dit, hop, on va mettre en place un système de visioconférence où les gens nous contactent par mail, par Messenger. Ils peuvent parler. Ils auront besoin de temps d'échange. Il n'y a pas de souci, bien au contraire. Donc, on a mis ça en place. Et au premier confinement, on a eu des gens qui nous ont contactés, pas pour des violences.
Pourquoi, là?
Ça a été surtout pour parler de leur communauté. Parce qu'ils se sont rendus compte que, pour la plupart des appels qu'on a eus, ils se sont rendus compte qu'ils avaient les moyens de pouvoir en parler à leur famille et de voir qu'ils n'étaient pas si obtus que ça et qu'ils avaient la capacité de pouvoir communiquer ensemble. Pour certains, ils avaient peur et se sont rendus compte que cette peur n'était pas justifiée. Et pour quelques cas, les personnes ont pu faire leur coming out auprès de leurs parents, de leur famille, et ça s'est super bien passé. Le seul cas qu'on a eu, malheureusement, de violence, ça a été le cas de violence intrafamiliale pour une personne trans.
Verbale ou physique?
Physique.
Physique, d'accord.
Mais c'était le seul cas.
D'accord.
Ça a été le cas. Voilà. Donc, le côté est pour nous positif, parce qu'on avait vraiment peur d'être submergé d'appels au premier confinement. On en a eu quand même quelques-uns, mais c'était que du positif et non quelque chose de violent comme on avait pu le craindre. Et là, pour le deuxième confinement, on a beaucoup plus d'appels qu'on a pu en avoir pour le premier. Beaucoup plus de visio en rendez-vous qu'on a pu en avoir pour le premier. Alors, quand je dis beaucoup, c'est trois fois plus que ce qu'on a eu il y a quelques mois.
Ah ouais, mais comment vous m'expliquez ça?
Beaucoup basé sur les personnes transgenres.
D'accord.
Et certains demandeurs d'asile. À savoir que pour les personnes transgenres, leur dossier de changement d'état civil continue à être travaillé. Même si on n'a pas d'ouverture du local pour l'instant, même si nos protocoles de sécurité et de nettoyage est au top, parce qu'il a été mis à l'Agence régionale de santé, pour l'instant, on n'a pas l'autorisation d'ouvrir le local. Donc, pour l'instant, tout se fait en visioconférence. Dès qu'on pourra ouvrir le local, on reprendra nos rendez-vous. Mais donc, les personnes nous recontactent soit par Messenger, soit par visio pour travailler leur dossier. Et pour certaines personnes demandeuses ou demandeurs d'asile, quand ils ont la capacité et la possibilité d'avoir un téléphone ou d'avoir des gens autour d'eux qui leur permettent d'utiliser leur ordinateur pour pouvoir travailler sur leur dossier de demande d'asile, on peut travailler avec eux. Malheureusement, les plus lésés dans l'affaire, ce sont les demandeurs et demandeuses d'asile.
Est-ce que malheureusement, vous avez beaucoup d'appels de détresse?
Alors, on en a eu quelques-uns, mais on n'a pas eu beaucoup.
Donc, est-ce que c'est plus ou moins rassurant, ou on est dans l'alarme, ou est-ce qu'on est dans plutôt, on est sur une voie qui est plutôt plutôt bonne? Est-ce qu'il y a des bons signes, ou est-ce qu'on est sur quelque chose d'alarmant quand même?
Bah, disons, là, c'était surtout un cas d'une jeune personne qui avait pu communiquer avec son père.
Oui.
Une jeune personne trans, et à chaque fois qu'ils étaient tous les deux dans la même pièce, finissaient par s'engueuler et voilà quoi.
Et alors, petite question dans ces cas-là.
Et puis apaiser. Et ce qui a apaisé le dialogue, c'est de nous rencontrer.
Ah, vous avez rencontré le père, vous avez fait une confrontation.
Oui. Ce qui y avait un besoin,
oui,
du père de nous rencontrer pour discuter et d'essayer de comprendre par rapport à son enfant la modification que son enfant allait subir par rapport à son changement hormonal, son apparence, sa vie, parce que voilà, il y avait plein de questions. Comment appeler son enfant suite à ce changement-là? Voilà. Des fois, c'est la grosse difficulté aussi pour les parents par rapport aux enfants. Quand il y a un changement, il y a, comment dire, une confrontation qui se crée. Et il leur faut une troisième personne pour faire un petit peu l'arbitre.
Oui.
Et pour la plupart des parents, ils ont besoin aussi, parce qu'il y a une peur derrière, d'essayer de comprendre, mais ils n'ont pas tous les éléments pour comprendre les choses qui arrivent. Et ils ont besoin de quelqu'un qui leur explique, qui prenne du temps et leur expliquer par quoi leur enfant va passer, par quoi les parents vont passer aussi, parce que les parents vont passer aussi par des phases qui sont plus ou moins faciles. Il y a des parents où ça se passe super bien tout de suite, qui font l'accompagnement sans problème de leur enfant. Et il y en a d'autres où c'est très compliqué et on demande de l'aide. Et on est là aussi pour ça.
Et donc là, dans ce cas-là, en tout cas, ça a beaucoup aidé. Vous avez senti vraiment,
oui,
une...
ça a beaucoup aidé. Les deux sont repartis un peu plus apaisés et ont pu reprendre des discussions sans avoir besoin de s'écharper au bout de 5 minutes dans la même pièce.
C'est super. Bah, j'aimerais bien du coup partager un peu le contact en tout cas de l'asso. Donc c'est, on peut vous envoyer un mail déjà?
Oui, à contact@gagl45.org.
Et puis on peut vous contacter donc par Messenger. Vous êtes d'ailleurs très actif sur Facebook.
GL45.
Ah oui, toujours.
Voilà.
Alors j'ai encore une petite question. Quelques questions. Il y a eu un temps fort cette année. C'était la 11e édition du festival D'un bord à l'autre. Est-ce que vous pouvez nous parler, oui, un peu de ce festival?
Alors Christelle Liard, qui est la responsable de ce festival, comme chaque année, monte une programmation. habituellement de 5 jours. Non, 1, 2, 3. 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, avec une thématique LGBT+, permettant à des personnes de venir voir des courts-métrages ou des films avec une thématique LGBT+. Et ça permet aussi d'avoir une visibilité au niveau de la ville d'Orléans sur ces questions-là.
D'accord. Et donc, autre temps fort, c'est le 12 septembre que vous avez organisé une Pride. Donc, cette fois-ci, c'était la 7e édition, il me semble.
Alors, ce n'est pas, on n'appelle pas ça une Pride.
Alors oui, c'est ce que j'ai lu sur Facebook, mais du coup, je ne sais pas trop.
Mais nous, c'est une marche de l'égalité contre l'homophobie et la transphobie.
D'accord. Il me semblait avoir lu Gay Pride ou Pride.
Il y a des gens qui emploient ce terme Pride, mais nous, on ne l'emploie pas.
Alors pourquoi ? Expliquez-nous un peu justement la
alors,
différence.
Marche des fiertés, Gay Pride et tout, c'est des marques déposées.
D'accord, ok.
Et nous, on ne voulait pas rentrer dans ce contexte-là de marque déposée. Et donc, on a créé, nous, notre terme, marche de l'égalité contre l'homophobie et la transphobie.
D'accord.
Voilà. Est-ce que les choses étaient claires, étaient posées, comme ça.
Est-ce que vous avez eu des difficultés à la mettre en place ou même pendant
Pas du tout.
Ouais. Oui, j'ai entendu que ça s'était super bien passé dans un pacifisme profond.
Il y a 7 ans, je me posais la question de savoir comment on allait monter ça.
Ouais.
Parce que c'était vraiment un des choix qu'on se posait, comment mettre ça en place. Et comme on a fait une manifestation pour le droit du mariage pour tout le monde. Quand on a vu le nombre de personnes qui étaient lors de nos manifestations étaient présentes, on s'est dit, mais bingo, quoi, on peut faire notre marche sans problème. C'est de là que ça a été créé il y a 7 ans, la marche d'égalité contre l'homophobie et la transphobie. Donc, autour de la journée du 17 mai, journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, on essaie de garder toujours cette date-là proche. Ça symbolise cette journée. Et on a réussi à faire notre 7e marche, qui a été quand même un petit peu difficile, parce qu'habituellement, on le fait au mois de mai. Et là, cette année, avec le Covid, on n'a pas pu la faire comme ça, donc là, on a réussi à la faire au mois de septembre. Et même avec le contexte du Covid, 800 personnes étaient présentes.
Oui, c'est énorme. Et puis, il y a tout.
Depuis deux ans, ce que l'on peut voir, c'est que les trois quarts, et même, je dirais même plus des trois quarts, des personnes présentes, dans nos manifestations, ce sont des collégiens, des lycéens qui viennent. Vraiment, les jeunes s'identifient de plus en plus tôt, veulent être visibles, avoir des droits, que les droits arrivent plus vite que comme nous on a pu les avoir, et ils emmènent leurs copains, leurs copines, même s'ils sont pas LGBT, et ils emmènent les parents. Et on a pu voir depuis quelques années beaucoup de parents qui viennent soutenir leurs enfants et qui sont présents. Et ça, c'est extraordinaire.
Et donc, une 8e édition peut-être en préparation, si c'est permis.
Tu dis, on est en train de la préparer, bien sûr. Parce que même s'il y a encore le Covid, de toute façon, on prépare notre 8e. Hein, au contraire, faut toujours aller de l'avant. Et ça va bien se passer. De toute façon, on est positif là-dessus. On n'a pas de soucis. On a tout préparé comme d'habitude avec une mise en place d'un protocole sanitaire, tout comme on a pu le mettre là en place avec la préfecture. Ça s'est super bien passé.
Eh ben génial, c'est noté. Donc dernière petite question, c'est aussi bientôt, il me semble, la journée de la visibilité des transidentités. Et donc, il me semble, hein, c'est bien ça.
Oui.
Et est-ce que vous pouvez nous définir déjà cette notion de transidentité?
Alors.
Parce qu'elle est assez. On peut se poser des questions entre transgenre, transsexe, transidentité. Pourquoi alors, ce terme-là vient un peu séparer tout ça?
Voilà. Transsexuel, on n'emploie plus le terme. On emploie soit le terme trans.
Voilà.
Ou transgenre.
Et alors, pourquoi on n'emploie plus justement ce terme de transsexualité?
Parce que ça se basait que sur le sexe. Alors que ce n'est pas que ça, en fin de compte. Ce n'est pas qu'une question de sexe, c'est une question de personne en général, c'est un tout.
Et donc justement d'identité.
Et d'identité surtout.
Et donc, voilà. D'où le terme transidentité.
C'est ça.
Et
elle a dit qu'une personne est hétérosexuelle, homosexuelle et une personne trans. Une personne homosexuelle, c'est un homme qui est dans son corps d'homme et qui accepte d'être un homme. Une personne transgenre, c'est une personne qui n'est pas née dans le bon corps.
D'accord. Voilà. Et est-ce que donc il y a aussi un débat aujourd'hui, c'est celui sur les cartes d'identité nationales ou même les passeports, il me semble, c'est celui justement du terme de sexe. Est-ce que ça rejoint la même idée ?
Alors, il y a toujours le 1 et le 2,
oui. Hein,
homme-femme.
Déjà ça, voilà. Oui.
Donc oui, il y a eu un grand débat, savoir, parce que certains pays, soit ils enlèvent homme-femme, soit ils mettent sexe neutre.
Oui.
Mais ça, sexe neutre, on n'arrivera pas encore pour l'instant à arriver à ça. Parce que sexe neutre, ça va être plus d'eau pour des personnes intersexes.
Donc ça, intersexe, c'est quoi ?
Intersexe, c'est des gens qui naissent avec les deux organes génitaux qui ont eu un début de création,
oui.
Et qui ont les deux parties génitales peu développées, mais qui sont présentes. Et après, malheureusement, on parlait tout à l'heure de code civil au niveau de la loi, il faut faire un choix entre homme ou femme.
D'accord. Et il faudrait qu'il y ait justement une catégorie, en tout cas un terme qui permette de...
Mais alors c'est très difficile. Pour les personnes intersexes, c'est très difficile parce que soit dans les premiers jours, il y a un travail qui est fait avec le médecin pour savoir lequel des deux organes est le plus développé. Pour pas se tromper.
Oui.
Parce que voilà, il y a aussi ce risque de se tromper et d'avoir une personne qui soit transgenre, qui naisse dans un corps qui n'est pas le sien. Ou après, il y a certains pays qui préfèrent que les personnes ne soient pas mutilées, si on appelle une partie de ça de la mutilation, et qu'on laisse l'enfant. Quand il est en âge de comprendre et de pouvoir gérer cette histoire-là, de prendre la décision de savoir de quel sexe il veut être.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez me parler d'un truc ? Alors ça, c'est plutôt personnellement, je me pose une question, c'est à propos des non-binaires. Je me demande un peu, je comprends ce que c'est, mais j'arrive pas trop... Enfin non, je pense que je comprends pas bien exactement ce que c'est.
Alors... ou vous comprenez pas.
Non-binaire, d'après ce que j'ai compris, c'est quelqu'un qui n'est ni homme, ni femme, ni rien du tout. En fait, il n'a pas de genre du tout.
Voilà. On parlait de genre tout à l'heure, genre homme ou femme. La personne non-binaire ne veut pas se définir en tant qu'homme ou en tant que femme. Voilà. C'est... soit elle se retrouve au milieu en disant que elle peut être un homme, elle peut être une femme à un moment donné de sa vie.
Oui.
Voilà. Elle ne veut pas s'identifier à cette catégorie, elle ne veut pas y rentrer dans une catégorisation.
D'accord, ok. Ok.
Et ça... après, elle peut se dire, voilà, alors c'est pour ça qu'on parle de fluidité, à un moment, c'est de passer de l'un à l'autre.
Oui, ça j'ai déjà entendu parler, ouais. Effectivement. Et donc, est-ce que, oui, vous parliez tout au début des polyamoureux, donc je sais, oui. Plus ce que c'est, mais je me demande, est-ce qu'ils subissent, eux, des discriminations ou est-ce qu'ils se sentent rejetés, enfin pas acceptés ? Donc comment ça se passe pour vous ?
Alors, disons que les personnes peuvent s'identifier. Ils peuvent, parce que certains ne le font pas, comme polyamoureux. Donc, polyamoureux, c'est de tomber amoureux, d'être amoureux de plusieurs personnes, quelle que soit leur apparence ou leur identité ou orientation sexuelle.
Oui, d'accord.
Bon, voilà, c'est
donc finalement, oui.
Le grand pack, voilà.
Oui, donc finalement, oui, ils peuvent
oui,
subir.
Il y a toujours un problème de se sentir discriminé, oui, bien sûr.
Oui, mais moi, j'étais resté, en fait, dans le polyamoureux, c'est-à-dire juste une personne qui, par exemple, est hétéro ou homosexuel, peut tomber amoureux de plusieurs personnes. Mais j'étais pas dans l'idée que c'était plusieurs sexes.
Là, ça peut être le selon l'orientation sexuelle, l'identité de genre.
Oui, ça peut être tout, d'accord, ok. Ouais. Ok.
Pendant qu'on parlait du GAGL, je vous fais un petit flash de 2019. On a pu faire quand même 9167. Il y a eu 9167 bénéficiaires des actions à l'association en 2019, dont 941 personnes qui ont été reçues en entretien individuel. C'est 187 actions qu'on a organisées. C'est 3747 heures de bénévolat. Alors, c'est très important que nous, on note nos heures de bénévolat. C'est pour faire voir le travail qu'il y a en charge à l'association. On a un budget de 70 000 euros. Alors, on fait partie des structures quand même moyennes au niveau budget. Et on a 122 adhérentes adhérents à l'association avec un tiers de femmes et deux tiers d'hommes. Donc voilà, ça permet de comprendre un peu mieux notre association.
En tout cas, bravo, parce que ça a l'air d'être un cahier des charges qui est sacrément overbooké, là.
Enfin, alors, on s'ennuie pas.
Ouais, ouais. 2019, en tout cas, bien, bien chargé, ouais. Et ben, en tout cas, merci, Ralph Souchet, d'avoir été avec nous. Et puis voilà, n'hésitez pas, en tout cas, à aller sur le site GAGL et puis à contacter, tout simplement, c'était l'adresse contact.
@GAGL45.org.
Voilà, si jamais quelqu'un se sent concerné, tout ça, toutes les infos, vous pouvez les retrouver sur le Facebook, sur le site internet. En tout cas, c'est là que moi je me suis documenté. Et en tout cas, merci ouais, d'être resté aussi longtemps avec nous.
Mais de rien, c'est avec plaisir.
Merci infiniment.
Radio Campus sur le 88.3 FM.
Bondi Blog Centre. www.bondibloccentre.fr.
Bondi Blog Café.
Bondi Blog Centre.
Bondi Blog Café.
Rejoins la rédaction
www.bondibloccentre.fr.